Alors, si vous voulez, on va commencer notre deuxième sermon sur la souveraineté de Dieu. Et le sujet de ce matin, ça va être la souveraineté de Dieu, mais dans la création. Alors, la semaine dernière, on avait tout simplement fait une introduction à la souveraineté de Dieu. Alors, le sujet qu'on va prendre pour lancer la leçon d'aujourd'hui, c'est Apocalypse, chapitre 4, au verset 11. Alors, si vous voulez vous lever, on va lire la parole de Dieu. Apocalypse 4, verset 11, qui dit « En disant, tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, parce que c'est toi qui créas toutes choses et que c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » OK, on peut se rasseoir. Alors Dieu, bien entendu, pouvait créer ou ne pas créer. Ça, c'était son bon plaisir, comme ça dit dans les Écritures. Dans sa souveraineté, il a décidé de créer les anges, de créer l'univers avec ses planètes et ses étoiles. Ceux qui étaient là quand on a fait la série sur Genèse, on avait parlé un petit peu du nombre des étoiles, la grandeur de l'univers. Plus on a ça dans la mémoire, plus on comprend la puissance de Dieu pour mettre une telle chose à l'existence. Donc, il a créé les étoiles, la terre, avec les trois règnes qu'on appelle le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Il a créé tout cela. Et il a créé, bien entendu, les hommes. Alors, les hommes, dans toute leur science, depuis des années qu'ils étudient la nature, n'ont pas encore fini de découvrir tout ce qui existe. Ni dans les océans, ni dans rien d'ailleurs. Ils sont toujours en train d'apprendre et d'approfondir la glorieuse création de Dieu. Alors, ils n'ont pas fini d'inventorier toute sa richesse et toute la diversité que Dieu a créée quand il l'a créée. Dans le psaume 33, au verset 9, on a une idée de la puissance de Dieu pour créer. Quand il dit, « Car lui, en parlant de Dieu, il parle et la chose existe, il commande et elle subsiste. » Pensez à ça, là. Ce qui existe, là, Dieu a parlé. Nous, quand on parle, vous m'entendez, mais ça ne fait pas, apparaître rien. Mais Dieu a parlé et toute la création est venu à l'existence. Imaginez-vous la puissance de la parole de Dieu. Et ça dit non seulement qu'il l'a créée, mais qu'elle subsiste par sa parole. Subsister, ça veut dire que si Dieu arrêtait de la soutenir, tout s'écroulerait dans le néant. Alors, l'existence, notre propre existence, l'existence de la matière, l'existence de toute chose, non seulement il l'a créée, mais à cause du fait qu'il la subsiste, c'est ça qui fait qu'elle demeure en place. Sinon, on disparaîtrait tous au complet. Dans le psaume 119, les versets 90 et 91, du moins dans la version que je me suis servi, alors peut-être dans votre version, je ne sais pas, ça va peut-être dire différent, mais psaume 119, versets 90 et 91, ça dit « Ta fidélité est d'âge en âge. Tu as affermi la terre et elle subsiste. Selon tes ordonnances, tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses sont tes esclaves. » J'aime beaucoup cette traduction-là. « Toutes choses sont les esclaves de Dieu » dans le sens que Dieu, tout ce qu'il a créé, est sous son parfait contrôle. L'univers, les étoiles, les planètes, la terre, les individus, les poissons, les papillons, les oiseaux, tout ce qui existe est sous son parfait contrôle. Quand ça dit « toutes choses sont tes esclaves », ça veut dire qu'il a le parfait contrôle sur tout ce qui existe. Alors, le Seigneur contrôle de façon absolue toute sa création et ceci de façon permanente. Alors, il n'y a pas un moment où Dieu n'est pas parfaitement contrôle de tout ce qu'il a mis au monde, comme on dit. Donc, on va regarder aujourd'hui que le Seigneur est souverain sur sa création, mais on va regarder différentes facettes de sa création pour montrer qu'il est au contrôle de toutes ces choses-là. Donc, le premier point qu'on va regarder, c'est qu'il est souverain sur sa création, mais sur les créatures inanimées. Une créature inanimée. Autrement dit, vous prenez un morceau de terre, c'est une créature parce que ça a été créé par Dieu, mais c'est inanimé dans le sens que ça n'a pas la vie, du moins la vie telle qu'on est habitué de la définir. Alors, les créatures inanimées. Dieu règne sur les étoiles et sur les planètes. Et si, j'avais envie de ressortir tous les chiffres, mais je me suis dit, ça ne donne pas... vous redonner toute une série de chiffres que 2 minutes après, on ne s'en souvient plus. Mais tout ce qu'on peut se souvenir, c'est que c'est énorme. Et qu'il contrôle toutes ces choses-là, sur les étoiles et sur toutes les planètes. Il les contrôle à la perfection. Ésaïe, chapitre 40, les versets 26 à 28. Ça dit, « levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est lui, en parlant de Dieu, qui fait sortir par nombre leur armée, qui les appelle toutes par leur nom, à cause de la grandeur de son pouvoir et de la puissance de sa force. Pas une ne manque. Pourquoi dis-tu au Jacob et parles-tu ainsi au Israël? Ma voix est cachée à l'Éternel et mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu que l'Éternel est un Dieu d'éternité qui a créé les bouts de la terre? Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, insondable est son intelligence. » Moi, je sais pas, il faut s'arrêter des fois pour réfléchir un peu au sens des mots et essayer de comprendre la profondeur de ce que Dieu est en train de nous dire. Quelqu'un qui serait, disons, qui aurait appris tous les livres qu'il y a dans une bibliothèque, puis disons qu'il les saurait tous par cœur. Je ne pense pas que ça existe, mais disons que ça existerait. Puis qu'on serait mis en présence de cet homme-là ou de cette femme-là. On serait-tu impressionné un petit peu? Disons une grosse bibliothèque comme, je ne sais pas, l'Université de Montréal. Puis il saurait tout ça. Puis là, lui, il se place en face de vous, puis c'est un être 10 fois plus intelligent que vous. On se sent-tu petit devant une personne comme ça? C'est un être humain, on se sent petit. Mais Dieu dit que son intelligence à lui, elle est insondable. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas comprendre jusqu'à quel point Dieu est intelligent. Parce que si on sonde, une sonde, c'est comme un bout de, disons, de corde que vous mettez un morceau de métal et vous la laissez descendre. Vous attendez qu'après un temps de pied, elle fait toc. Vous avez atteint le fond. L'intelligence de Dieu, elle n'en a pas de fond. Elle est tellement grande qu'elle est insondable. Alors ça, c'est quelque chose à se rappeler quand on parle de la souveraineté de Dieu. Dans Job 38, versets 31-33, où Dieu vient rappeler à Job, parce qu'on sait que Job, à un moment donné, il a bien commencé, quand il a eu ses épreuves que Dieu lui a envoyées, mais qu'à un moment donné, il a mal interprété et qu'il a mal réagi. Et à la fin, Dieu intervient vers la fin de Job. Ceux qui ont déjà lu Job, vous vous souvenez qu'à la fin, Dieu intervient pour corriger certaines incompréhensions que Job avait face à lui. Et là, pour humilier son serviteur, il lui pose des questions. Il ne dit pas, t'es un ignorant, t'es un ci, t'es un ça. Des fois, en posant une question, la personne qui se la fait poser, elle se rend compte que, oui, la réponse implique que tu l'es ignorant. Le Seigneur dit, peux-tu serrer les liens des Pléiades ou détacher les chaînes d'Orion? Là, on parle de planète. Il est en train de dire, peux-tu les rapprocher, peux-tu les éloigner l'une de l'autre? Là, je pose que Job a dû faire, oh, peut-être que là, je parle d'un sujet que je ne connais pas. Et après ça, il dit, feras-tu lever les signes du zodiaque chacun en son temps? Et conduiras-tu la grande ours avec ses petits? On sait que la grande ours, c'est comme une série de planètes, d'étoiles. Il dit, connais-tu les lois du ciel? Ou saurais-tu en établir l'empire sur la terre? Connais-tu les lois du ciel? Moi, s'il me poserait la question, je dirais, je ne connais rien là-dedans. Je pense que je serais beaucoup plus proche de la vérité. Alors, il y avait le but de Dieu de poser cette question-là à son serviteur. C'était de lui montrer que sa compréhension des choses que Dieu envoie dans nos vies, y compris les épreuves, on devrait se taire devant ce que Dieu nous envoie. Parce que ce que Dieu nous envoie, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Même si on a de la misère à le saisir. C'était un peu ça qui se passait dans sa vie. Là. Dieu lui envoie, perd sa femme, perd ses enfants, non pas sa femme, ses enfants, toute sa fortune, sa santé, littéralement. Il ne comprenait plus rien. Pourtant, Dieu, je te crains, je te sers, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu m'envoies ça? Il ne comprenait plus rien, rien du tout, du tout. Là, il voulait mourir, mais il réagissait mal, même si nous, à notre niveau, on peut très bien comprendre que sa réaction était tout ce qu'on peut dire comme normal. Cependant, Dieu, à la fin, il vient lui dire, tu es en train de te mêler des choses qui te dépassent. Et je pense que le message, pour rien que le Seigneur ait écrit Job, c'est pour nous montrer que dans le déroulement de nos propres vies, beaucoup de choses que des fois on refuse ou qu'on comprend mal pourquoi Dieu nous envoie les choses, pourtant, Dieu, dans sa sagesse, nous dit qu'il envoie toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous, bien entendu, si on est un enfant de Dieu, il n'y a rien qui nous arrive au cours d'une journée, d'une semaine, d'une année qui ne contribue pas à nous rapprocher de Dieu et à faire de nous des personnes qui vont ressembler davantage à Jésus-Christ de plus en plus, de mieux en mieux. On a de la misère à accepter ça, hein? Vous autres, je ne sais pas, là, mais moi, oui, des fois. Des fois, je dis, voyons, Seigneur, pourquoi telle affaire? Pourquoi telle affaire? Mais on devrait... moi, j'avais lu, quand j'avais fait préparer cette leçon-là, j'avais préparé une série de sermons sur Job. J'avais tout étudié le livre complet quand j'étais à Rouen. Et je me souviens d'une phrase qu'un puritain avait dit quand il commentait ces affaires-là. Et je vais vous la donner en anglais, je vais vous la traduire après. Il disait, « When the Lord's hand is on your back, put your hand on your mouth. » Lorsque la main du Seigneur est sur votre dos, autrement dit, lorsque Dieu vous envoie des épreuves dont vous ne comprenez pas la signification, ni le sens, ni le but, gardez votre main devant votre bouche. Autrement dit, taisez-vous parce que vous ne connaissez pas pourquoi Dieu fait ça. Il fait ça pour ton bien. Et nous autres, on est là, puis on roule les brancards, puis on chiale, puis on braille pas. À quelque part, je pense que ça devrait nous humilier, se rendre compte que ce que Dieu fait dans nos vies, il le fait à la perfection. Donc, il règne sur les étoiles et les planètes. Donc, on parle encore de créatures inanimées. Mais on va parler encore de d'autres choses inanimées dont Dieu a le parfait contrôle. Dieu règne sur les éléments. Par exemple, dans Genèse 7, les versets 11 et 12, Dieu a commandé le déluge universel. Et on se souvient un petit peu, ça fait pas longtemps qu'on a étudié ça. Les écluses des cieux, pendant 40 jours, il n'y a plus. Puis pendant 40 jours, le Seigneur a permis que la terre ouvre et que l'eau souterraine sorte et que ça a fait le déluge au point où il y a eu tellement d'eau que ça a monté plusieurs pieds au-dessus des plus hautes montagnes. Alors, s'il commande ça, ça implique pas mal de force. Ça, c'est récent, sortez dehors, puis commander qu'il y ait de la pluie pendant 40 jours, puis commander que la croûte terrestre se brise, puis que l'eau sorte. Essayez-vous, on en parlerait. Si vous réussissez, là... OK, alors ça dit l'an 600 de la vie de Noé, au second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les fontaines du grand abîme furent rompues. On parle de la croûte terrestre, les eaux souterraines, et les bondes des cieux, autrement dit, tout ce qu'il y avait d'eau au-dessus de la terre, furent ouvertes. Imaginez-vous, ça prend de la force pour être capable de faire ça. Et la pluie fut sur la terre 40 jours et 40 nuits. Donc, Dieu contrôle l'eau d'en haut, l'eau d'en dessous, il contrôle tout. Autre chose, quand on lit dans Exode 14, quand le peuple est sorti d'Égypte, et qui sont arrivés devant la mer. Là, ils étaient pognés parce qu'il y avait les ennemis qui arrivaient par en arrière, puis en avant, il y avait la mer. Ils pouvaient plus... autrement dit, il y avait les... En bon québécois, il y avait les kettles. Parce que tu arrives devant une mer, puis tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Les ennemis s'en viennent pas pour rentrer dans la mer. Là, tu es pogné. Alors là, Dieu a permis que Moïse commande aux éléments, à la mer rouge, de s'ouvrir... Ceux qui ont déjà vu le film Les Dix Commandements de Dieu, on a une petite idée. C'est sûr que c'est du cinéma, mais c'est quand même réaliste. Alors ça dit, et Moïse étendit la main sur la mer. Et l'Éternel fit reculer la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec force toute la nuit, et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Et les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer, à sec, et les eaux formaient une muraille sur leur droite, sur leur gauche. C'est pesant de l'eau, mes amis. Ça rouvre, laisser passer le peuple, il était quelques millions. Il fallait que ça prenne un passeur assez large pour ouvrir ça, puis à sec. Normalement, quand tu rouvres l'eau comme ça, là, tu marches dans la bouche jusqu'au genou. Là. Le Seigneur a eu Dieu. C'est à sec. C'est quelque part, il faut se rendre compte jusqu'à quel point notre Dieu est grand. Autre chose, Dieu peut commander au soleil et à la lune. On a un exemple de ça dans Josué, quand Dieu commande au soleil et à la lune, dans le but que Israël ait 24 heures de plus pour vaincre leurs ennemis. Alors ça dit dans Josué 10, versets 12 et 13, « Alors Josué parla à l'Éternel le jour que l'Éternel livra les Amoréens aux fils d'Israël, et il dit, en présence des fils d'Israël, « Soleil, sois immobile en Gabaon, et toi, lune, en la vallée d'Ajalon. » Et le soleil fut immobile, et la lune s'arrêta, jusqu'à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Et le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et il ne se hâta point vers son coucher un jour entier. Commander au soleil, commander à la lune, là on parle de puissance. Alors Daniel, Dieu commande au feu. Quand on lit dans le livre de Daniel, dans Daniel 3, les versets 20 à 22 et 27 et 28, Dieu commande au feu de ne pas brûler les trois compagnons de Daniel. Alors dans 20, il dit, « Et il commanda des hommes, là on parle du roi Nebuchadnezzar, et il commanda des hommes aux plus vigoureux qui fussent dans son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise du feu ardent. » Un feu ardent, ça voulait dire qu'il dit à un autre endroit qu'il avait fait chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Alors la fournaise était comme au top, ça brûle, là jusqu'à c'est au top, ça brûle. Et dit, et de le jeter dans la fournaise du feu ardent. Alors ces trois hommes furent liés avec leurs pantalons, leurs tuniques, leurs manteaux et tous leurs vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise du feu ardent. Verset 22, par suite, vu que la parole du roi était rigoureuse et que la fournaise était extraordinairement chauffée, ces autres hommes qui avaient enlevé Shadrach, Meshach et Abednego, la flamme du feu les tua. Ceux qui avaient préparé le feu, il était tellement fort que ceux qui étaient proches ont été brûlés. Tu as une idée? Verset 27, « Et les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi s'étaient rassemblés, virent sur ces hommes-là que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps et que la chevelure de leur tête n'était pas brûlée et leurs pantalons n'avaient pas changé et l'odeur du feu n'avait point passé sur eux. » On vous jette dans une fournaise où le feu est au top, puis après que tu sors, tu ne sens pas le feu, tes cheveux ne sont pas brûlés, tes vêtements ne sont pas brûlés. Qui commandait au feu? L'Éternel. Alors, dans le verset 28, ça dit Nebuchadnezzar. Alors là, on en a affaire au roi lui-même, le roi le plus puissant de l'époque. C'était vraiment un roi extrêmement puissant. Nebuchadnezzar, quand il a vu ça, prit la parole et dit, le roi le plus puissant, un athée, un païen, dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et de Abednego, qui a envoyé son ange et a délivré ses esclaves parce qu'ils se sont reposés sur lui et ont enfreint la parole du roi et ont donné leur corps afin de ne servir et de n'adorer aucun Dieu, sinon leur Dieu. » Quelque part, tu mets des êtres humains dans un feu qui est chauffé 7 fois plus que d'habitude, puis le roi, ils sortent, ils se rendent compte qu'ils ne sont même pas brûlés. Alors, quelque part, c'est que Dieu intervenait pour que le feu ne fasse pas ce qu'il est supposé de faire. Mais là, ce qui nous montre que c'est un vrai feu, c'est que ça dit que ceux qui ont préparé le feu, eux, ils ont été brûlés. Ils n'étaient même pas dans le feu. Ils étaient juste aux alentours du feu. Autre passage qui nous parle que Dieu commande aux éléments. C'est ce qu'on appelle, dans les assurances, quand vous avez des affaires qui sont causées par la nature, dans les assurances, on appelle ça des « acts of God ». Acts of God, ça veut dire qu'on ne paye pas parce que ce n'est pas une affaire normale, c'est une affaire qui est un acte de Dieu. C'est quand même bien, ils ont choisi le terme exact parce que c'est vraiment ça. Voyez-vous, dans psaume 148, versets 4 à 8, « Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé, ils ont été créés. » Il les a fermés pour toujours, à perpétuité. Il y a mis un ordre qui ne changera point. Louez l'Éternel sur la terre, vous, monstres marins, et tous les abîmes, feu, grêle, neige et vapeur, vent de tempête, et regardez le dernier bout de la phrase, qui exécutait sa parole. C'est-à-dire, quand il neige, quand il pleut, quand il y a des éclairs, et quand il y a de la grêle, de la vapeur, des vents de tempête, ça exécute la volonté de Dieu. Donc, ce ne sont pas des affaires qui arrivent, là, des phénomènes de la nature. C'est un phénomène divin. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes ces choses-là, qui permettent que les choses s'exécutent dans l'espace et dans le temps. Quand on a l'exemple de Christ, quand on a lu les Évangiles, on a l'exemple de Jésus-Christ lui-même dans Marc 4, versets 39 et 41. Et Christ se réveille parce que ses apôtres sont en train de paniquer. Là, et, Seigneur, on est en train de crever, tu ne te soucies pas de nous autres. Là. Et le Seigneur, ça dit, et s'étant réveillé, il réprimanda le vent. Réprimanda le vent et dit à la mer, fais silence, sois emmuselé. Et le vent s'apaisa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous ainsi timides? Comment n'avez-vous point de foi? » Et ils furent saisis d'une fort grande crainte, et ils se disaient l'un à l'autre, « Qui donc est celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent? » Ça, c'est notre Dieu. C'est Jésus qui est venu sur la terre, avec cette puissance-là. Dieu aussi, dans le psaume 147, versets 15 à 18, commande aux eaux, au vent et à la gelée. Verset 15, « Il envoie son commandement sur la terre, sa parole court avec vitesse. Il donne la neige semblable à de la laine. Il répand comme de la cendre la gelée blanche. Il jette la glace comme par morceaux. Qui pourra subsister devant ses frimas? Il envoie sa parole, il les fait fondre, il fait souffler son vent et les eaux s'écoulent. » Donc, il commande aux eaux, commande au vent, commande à la gelée. Psaume 148, verset 8. Dieu commande aux éclairs, à la grêle, à la neige. Voyez-vous, il y a des leçons pratiques à la souveraineté de Dieu. Si c'est Dieu qui envoie, et qu'on croit la parole, qui envoie la neige, qui envoie la pluie, pourquoi on chiale quand il envoie ça? C'est comme si on serait en train de lui dire... moi je sais ce que j'ai besoin, mais on dirait que toi, tu ne sais pas. C'est fou raide ce qu'on fait. Là. On est dans des attitudes de pas, de non-contentement. Si on avait vraiment une bonne intégration de la notion de la souveraineté de Dieu, on chiolerait jamais. Il neige, c'est parce que Dieu dit qu'aujourd'hui, la terre a besoin de neige. Même si toi, tu ne le vois pas le besoin, lui, il le voit. Alors, il s'est dit dans le psaume 148, verset 8, « Vous, feu et grêle, neige et vapeur, vent de tempête, qui exécute sa parole. » On parle de feu, quand on parle de feu dans le contexte, si on parle des éclairs. Des fois, on entend parler qu'un éclair fait ci, fait ça. Il y a des gens qui ont été frappés par des éclairs. Ou il y a des gens qui ont passé bien proche de mourir parce que l'éclair est arrivé à côté d'eux. Mais là, on se rapportait à penser que c'est un hasard. Non! Dieu contrôle parfaitement tout ce qui se passe chez les éléments de la terre. Et un autre phénomène que les Écritures nous apprennent tout le long des Écritures, Dieu contrôle les récoltes. Dans le psaume 65, verset 9 à 13, ça se dit « Tu visites la terre en lui donnant grande abondance, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est rempli d'eau. Tu prépares le blé quand tu prépares ainsi la terre. » Qui prépare? Dieu. Dieu. « Tu arroses abondamment ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu l'amollis par des pluies, tu bénis son germe, tu mets le couronnement à l'année de tes bienfaits et de tes ornières coule la graisse. » Elle coule sur les habitants du désert et les collines se saignent d'allégresse. Les pâturages se revêtent de menu bétail, les vallées se couvrent de froment. Elles poussent des acclamations, même elles chantent. On parle des récoltes. Écoutez le langage poétique que Dieu utilise par son Saint-Esprit. Elles poussent des acclamations. Quand tu vois un beau champ de blé, là, il se promène au vent, là, puis c'est doré, c'est beau. On dirait vraiment que c'est ça. On dirait qu'il pousse des acclamations à Dieu, puis on dirait qu'il chante. La nature chante. Mais tout ça, c'est provoqué par le Seigneur lui-même. Parfois, le Seigneur se sert des éléments bienfaisants pour bénir dans son peuple. Quand on lit l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël était obéissant, tout allait bien, leurs animaux allaient bien, leur récolte allait bien. Mais quand ils étaient désobéissants, Dieu se servait des éléments, mais pour juger et pour punir. Alors, Dieu est au contrôle de toutes ces choses-là. Alors, d'autres fois, il se sert justement des éléments destructeurs comme instrument de discipline et de châtiment. Dieu règne maintenant, on a vu les créatures inanimées. Maintenant, on va regarder, on parle de Dieu est souverain sur la création, mais aussi sur les créatures animées. Alors, on a Dieu règne sur le monde végétal. Donc, ça, c'est tout ce qui est végétal, on sait c'est quoi. Dieu commande aux plantes. On a l'exemple dans Jonas, chapitre 4, versets 9 à 11. Et Dieu dit à Jonas, « Tu fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin? » Et il dit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit, « Toi, tu as pitié d'un ricin pour lequel tu n'as pris aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit a péri. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, cette grande ville dans laquelle il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne connaissent pas la différence de leur droite et de leur gauche et du bétail en grand nombre. » Souvent, quand tu lis le livre de Jonas, on est porté à blâmer Jonas. Hein? Dieu lui avait dit d'aller là, il est allé à l'inverse. Mais il faut savoir les circonstances historiques pourquoi Jonas haïssait tant les Assyriens. C'est parce que c'était un peuple d'une cruauté inimaginable et que ces gens-là avaient fait un tort inimaginable à Israël. Et lui, Jonas, ne pouvait pas comprendre que les ennemis du peuple d'Israël qui lui ont fait tant de mal, que Dieu dise « Va les voir, prêche la parole et ils vont être sauvés ». Il ne comprenait pas, c'est pour ça qu'il dit « Non, non, ça ne marche pas, moi je prends le bateau, je fous mon camp, je ne veux pas que ces gens-là soient sauvés ». Ça nous donne ça une petite idée que des fois on est porté à penser que la grâce de Dieu, c'est nous qui la contrôle. Alors, Dieu commande au blé et aux fruits des arbres. On a ça dans Ézéchiel 36, versets 29 et 30. Il dit « Je vous sauverai de toutes vos souillures, et j'appellerai le froment, et je le multiplierai, et je n'enverrai point contre vous de famine. » Je n'enverrai point de famine. Donc, la famine était provoquée par l'Éternel lui-même. Il dit, « Et je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous ne receviez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. » Autrement dit, le Seigneur contrôle ces choses-là, soit pour une bénédiction, ou soit pour un jugement, ou pour discipliner son peuple. Dieu commande à la végétation. Dans Matthieu 6, versets 28 à 30, ça dit, « Et quant aux vêtements, pourquoi êtes-vous en souci? Étudiez les lys des champs. Comment croissent-ils? Ils ne prennent point de peine et ne filent point. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jeté dans le four, combien plus vous? » Gens de peu de foi. Nous montrer qu'il ne faut pas s'inquiéter. Dieu s'inquiète. Mais on s'inquiète pareil. Vous remarquez ça qu'il y a des affaires qu'on sait, mais avant qu'on les mette en pratique dans nos vies, ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Ça nous prend, il faut se le faire répéter des dizaines, des centaines, si ce n'est pas des milliers de fois. Dieu, on le lit, on le sait qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais la moindre petite chose qui nous arrive dans nos vies, on s'inquiète. Alors que Dieu dit, inquiète-toi pas, je m'occupe de toi, je vais te donner tout ce que tu as besoin. Bon, on l'oublie et là, on prend une équatelle. Bien, qu'est-ce qui va arriver, là? Puis, on le sait, mais tout pareil. Dieu règne maintenant sur le monde végétal. Maintenant, on a parlé d'un autre règne, tantôt le règne animal. Dieu commande aux animaux d'entrer dans l'arche, par exemple, dans Genèse 7, versets 8 et 9. Et Noé entra dans l'arche, ainsi que ses fils et sa femme, et les femmes de ses fils avec lui, à cause des eaux du déluge, du bétail pur et du bétail qui n'est pas pur, et des oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Et il en entra vers Noé dans l'arche, deux à deux, mâle et femelle, comme Dieu l'avait commandé. Alors, on avait vu dans notre commentaire de cette leçon-là, c'est que c'est Dieu lui-même qui avait commandé aux animaux. C'est pas Noé qui a eu commencé à se promener dans le pays. Ah, OK, ça me prend deux bœufs, ça me prend deux chèvres, ça me prend deux ci, deux ça. Dieu a fait en sorte que ces animaux-là, puisqu'il les contrôle par son esprit, qu'ils viennent d'eux-mêmes, deux par deux, mâle et femelle, pour entrer dans l'arche. Dieu est capable de faire des choses extraordinairement grandes. Alors, quand on lit dans Exode chapitre 8, versets 8 et 9, Dieu commande aux grenouilles, Dieu commande aux poux, Dieu commande aux mouches, Dieu commande aux sauterelles. Alors, dans Exode 8, versets 8 et 9, ça veut dire, « Alors, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Intercédez auprès de l'Éternel pour qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple afin qu'il sacrifie à Dieu. » Et Moïse dit à Pharaon, « Glorifie-toi sur moi pour quand je dois intercéder en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin d'exterminer les grenouilles loin de toi et de ta nation, fait qu'il ne reste que dans le fleuve. » Alors, c'est bien important de voir aussi que Dieu commande aux grands poissons. Quand on a la fameuse histoire de Jonas, là, on a tous entendu ça. Et regardez bien comment que la parole le dit. Et l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. On se souvient de l'histoire? La tempête a pogné, et là, les marins ont dit, ils n'ont pogné un qui dormait dans la cale. Puis là, ils sont allés chercher, tout le monde intercédait avec leur dieu païen. Et là, ils ont dit, c'est qui, toi? Pourquoi tu n'intercèdes pas? Comment ça se fait? Tu n'es pas comme les autres, t'as pas peur? Ah, moi, je me suis sauvé de l'Éternel. L'Éternel voulait une affaire, moi, j'ai fait le contraire. Fait qu'eux autres, ils ont pris, tiré la courte paille, puis... Ça, c'est encore Dieu qui contrôlait qui sortirait. Et après ça, lui, ils l'ont pris et l'ont jeté à la mer. Mais pour qu'il y ait une baleine qui arrive exactement au moment où il était jeté à la mer et qu'il rouvre sa bouche puis qu'il l'envoie dans son estomac, ça dit bien, c'est clair comme de l'eau de roche, l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. C'est extraordinaire. Il y a de quoi nous ébahir et nous éblouir. Dieu commande à une ânesse, vous connaissez toute cette histoire-là, dans Nombre 22, versets 24 à 30. Et l'ange de l'Éternel se tint dans un chemin creux dans les vignes. Il y avait un mur d'un côté et un mur de l'autre. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle se serra contre la muraille et serra le pied de Balaam contre la muraille. Et il continua de la frapper. Et l'ange de l'Éternel passa plus loin. Il se tint dans un lieu étroit où il n'y avait de chemin pour se détourner ni à gauche ni à droite. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se coucha sous Balaam. Et la colère de Balaam s'enflamma et frappa l'ânesse avec le bâton. Et, verset 28, « Et l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. » Imaginez-vous, une ânesse qui se met à parler, ça doit être rochant à peu près. Pas à peu près. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé toutes ces 3 fois? » Et Balaam dit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es joué de moi que n'ai-je pas une épée dans la main, car je te tuerai maintenant. » Et l'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu montes depuis que je suis à toi jusqu'à ce jour? » ai-je jamais eu coutume de faire ainsi? Et il dit non. C'est le Seigneur qui contrôlait l'ânesse de Balaam. Dieu commande aux oiseaux. 1 roi, chapitre 17, versets 2 à 6. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée en disant, « Va-t'en d'ici et tourne-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras au torrent. Et j'ai commandé aux corbeaux de te nourrir. » Apparemment, les corbeaux, c'est des oiseaux que quand ils pognent de la viande, il n'y a rien pour les enlever. Ils vont chicaner pour la garder. Et Dieu permet à un oiseau qui est attaché à sa viande d'aller la porter à son serviteur. Alors, quelque part, Dieu commande aux oiseaux. Et ça, dans le verset 5, ça dit « Il s'en alla, et selon la parole de l'Éternel, il alla et habita au torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait au torrent. » Dieu commande aux lions. L'histoire de Daniel, encore une fois, dans Daniel 6, versets 20 à 24. « Et comme il approchait de la fosse, il appela Daniel d'une voix douloureuse. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, esclave du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers continuellement, a-t-il pu te délivrer des lions? » Alors Daniel parla avec le roi. « Ô roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions et ils ne m'ont fait aucun mal parce que devant lui, la pureté a été trouvée en moi. Et ainsi, devant toi, ô roi, je n'ai commis aucun méfait. » Alors le roi éprouva une grande joie et il commanda qu'on retirât Daniel de la fosse et Daniel fut retiré de la fosse et il ne trouva sur lui aucun dommage parce qu'il avait cru en son Dieu. Et le roi commanda et on amena ces hommes-là qui avaient accusé Daniel et on les jeta dans la fosse aux lions, eux, leurs fils et leurs femmes, et ils n'avaient pas atteint le sol de la fosse que les lions s'en rendirent maîtres et leur brisèrent tous les os. Ferme la gueule pour ses serviteurs, puis rouvre la gueule pour ses ennemis. À quelque part, c'est... Dieu commande aux lions. Dieu commande aux bêtes aussi. Dans Ésaïe 34, versets 8 à 16, il y a comme une prophétie qui est faite concernant Babylone. Il dit, « Car c'est un jour de vengeance de l'Éternel, une année de rétribution pour la cause de Sion. Cet torrent se change en poids, et sa poussière en soufre, et sa terre devient de la poix brûlante. Nuit et jour, elle ne s'éteindra point, sa fumée montera perpétuité. D'âge en âge, elle sera déjà, elle sera désolée. À jamais, personne n'y passera. » Et voyez, il parle des animaux. Et il veut donner un signe comme de quoi que cette ville-là va être continuellement déserte. Et là, il dit, « Le pélican et le hérisson la possèdent, l'ibis et le corbeau y habitent. Il étend sur elle le cordeau de la solitude et le niveau du désert. Ces nobles, il n'y en a plus pour proclamer la royauté et tous ces princes ont pris fin. Dans tous ces châteaux montent les épines, dans ces forts, les orties, les chardons. Elle devient une demeure de chacal, un parc pour les autruches. Les bêtes du désert y rencontrent des chiens sauvages, les boucs y appellent l'un l'autre. Là seulement, la fille de la nuit fait sa retraite et elle trouve son lieu de repos. Là vient nicher le serpent d'or, il y pond, fait éclore et couvre ses petits dans l'ombre. Là seulement les vautours se rassemblent l'un avec l'autre. Et regardez bien le dernier verset. Cherchez dans le livre de l'Éternel et lisez. Il ne manque pas une de ses bêtes, aucune n'est privée de sa campagne, car c'est sa bouche qui a commandé et c'est son souffle qui les rassemble. D'ailleurs, il dit, cette ville-là va être détruite. Puis il va y avoir juste, ça va être juste un repère d'animaux sauvages. Et là, il dit, lisez, puis regardez les noms des animaux, puis regardez à un moment donné, quand ça va être rendu, que je vous ai dit, regardez s'il en manque une. Dieu contrôle les choses. Dieu contrôle absolument toute sa création. Psaume 135, versets 5 à 7. Certainement, je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que veut l'Éternel, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les vapeurs du bout de la terre, il fait les éclairs pour la pluie et tire le vent de ses trésors. Alors, on termine là-dessus. Il y a trois applications. Ouais. La première, la véritable reconnaissance de la souveraineté de Dieu exclut toute plainte. Et ça, ça devrait nous accuser un petit peu. On se plaint souvent. Nos murmures doivent céder la place à une humble soumission de la volonté divine et à l'acceptation de nos afflictions. Je vais donner un exemple. 1 Samuel, chapitre 3, versets 13 et 18, Élie, qui était pas Élie avec un E, là, E-L-I, c'était un prophète, et ses deux fils faisaient le mal. Et le Seigneur avait décidé que ses deux fils, il les tuerait, il les mettrait à mort à cause de leur désobéissance, à cause de leur... ils faisaient des choses qui étaient très, très, très blasphématoires dans l'exécution de leurs devoirs religieux. Et l'Éternel avait décidé qu'il leur enlevait la vie. Mais c'est de regarder, quand on parle de recevoir avec... reconnaître la main de Dieu, et il dit... alors ici, on a dans le verset 13 et le verset 18 de 1 Samuel 3, il y a eu une décision divine et Élie se soumet à la décision divine de faire mourir ses deux propres fils. Le Seigneur ferait mourir deux de vos enfants parce qu'ils sont méchants. La seule façon de réagir intelligemment, c'est de dire, Seigneur, tu sais ce que tu fais. Autrement dit, et dans le verset 13, ça dit, « Je lui ai annoncé que j'allais juger sa maison à perpétuité pour l'iniquité qu'il connaît. Car ses fils ont attiré sur eux la malédiction et ils ne les avaient pas réprimés. » Autrement dit, il y a l'histoire de la responsabilité paternelle là-dedans, de reprendre ses fils quand il tente de les reprendre. Ils n'avaient pas repris. Le Seigneur a dit, « Tu ne veux pas t'en occuper, moi, m'en occuper, moi. » Et dans le verset 18, ça dit, « Et Samuel lui rapporta toutes ses paroles et ne lui cacha rien. Et Élie dit, « C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui sera bon à ses yeux. » Wow! C'est un exemple de... Deuxième application, la véritable reconnaissance de la souveraineté divine devrait nous amener à la reconnaissance et à la joie profonde. Voyez-vous, Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 20, ça dit, « Et ne vous enivrez pas de vin, dans lequel il y a une dissolution, mais soyez remplis du Saint-Esprit, vous entretenant mutuellement par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant dans notre cœur au Seigneur, rendant grâce toujours pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. » Rendant grâce pour toutes choses. Ça veut dire que la connaissance de la souveraineté de Dieu nous devrait nous amener à être reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il nous envoie, sans exception. C'est facile quand c'est une bénédiction. Mais quand c'est une épreuve, des fois, on ne la reçoit pas trop correctement. Et la dernière, la véritable reconnaissance de la souveraineté divine nous conduit, ou devrait nous conduire, à l'adoration. Psaume 29, versets 1 et 2. Psaume de David. Rendez à l'Éternel, ô Fils de Dieu, rendez à l'Éternel la gloire et la force. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel. C'est l'adoration, ça. Peu importe ce qu'il t'envoie, ça devrait être toujours notre attitude de se prosterner devant lui. Il sait ce qu'il fait. On est ses enfants. Il ne nous oublie pas. Il nous aime. Et tout ce qu'il fait est rempli d'amour et de sagesse, même si nous, on ne le voit pas. Et prosternez-vous devant l'Éternel dans une sainte magnificence. Loué soit notre grand, glorieux et souverain roi. Que son saint nom soit exalté éternellement.